Émission spéciale. Faire du green implique-t-il de faire du smart building? En coproduction avec Cardam, vendredi 9 juillet 2021. Une émission présentée par Johanna Zilberstein sur Radio Imo.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en coproduction avec Cardam. Cardam que vous connaissez désormais, fidèle auditeur de Radio Imo que vous êtes. Et aujourd'hui, avant l'été, nous allons aborder un sujet qui est très actuel à l'heure de la rénovation énergétique, que ce soit dans le résidentiel ou dans l'immobilier tertiaire. C'est le sujet du green, évidemment. On va voir s'il est compatible avec le smart building qui représente l'avenir de la construction, je crois qu'on peut le dire. Alors, faire du green implique-t-il de faire du smart? On va voir ça, et pour répondre à cette question, trois invités autour de moi. D'abord, Frédéric Pitard, bonjour.
Bonjour Johanna.
Vous êtes le directeur technique de Cardam Digital. À côté de vous, Romuald Dobrinski, bonjour.
Bonjour Johanna.
Vous êtes architecte associé responsable des pôles santé, éducation, justice et outre-mer à Cardam. Rien que ça, ça doit faire un peu de boulot.
Il y a du boulot, effectivement.
Et Frédéric Maillet, bonjour à vous.
Bonjour Johanna.
Vous êtes directeur du pôle conseil de Cardam. Avec vous messieurs, on va pouvoir discuter de ce sujet, du green et du smart. Juste avant, est-ce que l'un d'entre vous peut nous représenter brièvement le groupe Cardam? Frédéric.
Oui, donc en quelques mots, Cardam est un groupe spécialisé dans l'immobilier. Donc ils sont construits depuis maintenant bientôt 30 ans. Donc qui s'est construit en intégrant au fur et à mesure de sa croissance différentes expertises pour devenir aujourd'hui une entreprise multispécialiste qui permet d'aborder les projets immobiliers au sens large à travers toutes ces problématiques. On va parler du digital, d'environnemental, des sujets humains liés à l'usage, tout ça, l'usage des opérations. Donc aujourd'hui, on a un groupe français indépendant, c'est important de le dire. Nous sommes 400 collaborateurs. Regroupés dans différents pôles d'expertise, donc le pôle d'aménagement des espaces, c'est de là où d'où on vient, qui nous a au fur et à mesure des années donné une vraie culture, un vrai ADN de l'usage, du pourquoi on travaille sur les projets et quelles solutions on peut apporter. Puis au fur et à mesure de la croissance, on a intégré une expertise en architecture. Nous sommes un cabinet d'architecture, le 10e cabinet d'architecture en France. Donc voilà, on va travailler, on parle de construction, de réhabilitation et donc voilà, de conception d'ensemble. Et donc le mariage des deux est très riche. Et ensuite, au fur et à mesure de l'existence également, on s'est renforcé dans les métiers du conseil, donc vraiment dans les métiers de très en amont sur les stratégies d'opération, mais aussi sur l'accompagnement dans les métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Sur l'ingénierie, parce que derrière aussi, il y a de la technique. Il faut que les projets que nous concevons soient viable techniquement. Et ensuite, le digital, qui est la plus récente, qui a quelques années d'existence maintenant. Et donc, il y a une première entreprise de services numériques, donc dans la sphère de l'immobilier, d'où la présence de Frédéric aujourd'hui, liée au thème.
On peut dire, si on veut être synthétique, que finalement, vous accompagnez le bâtiment sur toutes les étapes de sa vie.
Oui, tout à fait.
Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir attaquer. Faire du green implique-t-il de faire du smart building? C'est parti.
Émission spéciale. Faire du green implique-t-il de faire du smart building?
Voilà pour cette thématique du jour. Alors avant que l'on se lance dans le débat, j'aimerais que nous voyions un petit peu ce qu'impliquent ces termes de green et de smart building tous ensemble. Romuald, faire du green, c'est quoi ?
Alors, faire du green, c'est quelque chose qui remonte à loin, puisqu'en fin de compte, ça a commencé par architecture organique au début du siècle, et puis ça a été intellectualisé par David Persson au travers de la charte Gaïa. Et là, je voudrais juste vous citer quatre thèmes de cette charte, parce qu'elle est vraiment en résonance avec notre société et puis ce que l'on vit aujourd'hui au travers de cette crise sanitaire. C'est être inspiré par la nature et être durable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire besoin de se reconnecter à la nature. Suivre le mouvement et rester flexible et adaptable. Ça c'est quoi? C'est le télétravail, la flexibilité au travail. C'est quand même des choses que l'on retrouve aujourd'hui et qui est vraiment au cœur de ce qu'on nous demande, de ce que nous demandent les maîtres d'ouvrage. Satisfaire des besoins sociaux, physiques et spirituels. Là, c'est vraiment le besoin du bien-être individuel et du bien-être collectif au travers le bâtiment. Et puis le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur cette charte, c'est se développer à partir du site et être unique. C'est vraiment se rattacher au contexte. Et ce contexte, c'est l'appartenance à un lieu. Et ça, c'est très, très important. Et bien finalement, le green répond et une prolongation de tous ces concepts qui ont été mis en place à travers le XXe siècle et qui aujourd'hui trouvent une véritable résonance dans notre société.
C'est ce que j'allais vous dire. Quand on vous écoute, on a l'impression que le bâtiment green, en fait, c'est le bâtiment parfait. C'est celui qui est en accord avec son environnement, qui s'intéresse au confort de ses utilisateurs. On est complètement dans tout ce qu'on recherche aujourd'hui.
Mais tout à fait. Le bâtiment green, c'est le bâtiment non pas de demain, mais le bâtiment d'aujourd'hui. Et ce qui est très, très intéressant aussi dans ce bâtiment-là, c'est qu'aujourd'hui, il rencontre une adhésion du public, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la théorie comme il pouvait être au XXe siècle, il est vraiment dans notre quotidien. C'est une architecture qui dès sa création, pense effectivement à la nature, mais pas la nature comme une nature de contemplation, mais comme une nature d'usage. Dédié aux usagers, c'est quoi? C'est la création de jardins urbains, c'est la création de fermes verticales, c'est aussi, ça entraîne quoi? Ça entraîne en fin de compte une diminution de la pollution dans les villes, ça apporte un confort de ressenti. Les bâtiments, si je reprends les bâtiments du XXe siècle, c'était des grosses machines avec effectivement une ingénierie qui était liée à la puissance énergétique, alors qu'aujourd'hui, à partir du green, on va plutôt rechercher l'intelligence énergétique. Et c'est pour ça que le bâtiment et le travail de l'architecte ne peut se faire qu'au travers une vision plus élargie. Et le smart building en fait partie.
On le voit bien. Alors ça, c'est pour le green. Et pour le smart building, je vais me tourner vers vous, Frédéric Pittard. Qu'est-ce que c'est? C'est le bâtiment intelligent, si on le traduit mot à mot. Qu'est-ce que c'est finalement?
C'est un bâtiment qui tend à devenir plus intelligent grâce à la technologie, donc des technologies qui vont analyser la dynamique de vie du bâtiment et notamment mettre en relation la vie des occupants avec le bâtiment beaucoup plus technique, avec ses systèmes de régulation et ses systèmes de contrôle de l'énergie, des lumières, des espaces. Et donc le smart, c'est une technologie, hein, donc c'est pas une finalité en soi, c'est au service d'une trajectoire, d'une stratégie, et notamment d'une stratégie de green. Donc ça amène un certain nombre de mécanismes qui peuvent démarrer dès la construction du bâtiment. On essaye d'être beaucoup plus économe, il y a une notion de sobriété numérique, donc c'est pas forcément mettre des écrans partout, c'est pas forcément mettre des tablettes et des systèmes partout, c'est plutôt de les mettre au bon endroits pour faire en sorte que le bâtiment soit conçu pour aider les occupants à vivre et à l'occuper de façon intelligente. Et puis derrière, dans le smart, il y a une notion de dynamique également du bâtiment dans son environnement, de communication avec la ville, de communication avec les services de la ville, de communication avec la météo, de communication avec tout un tas d'informations et d'échanges d'informations. Donc la contribution du smart building sur le green va se faire surtout à travers cet échange de données, captation des données sur l'usage du bâtiment par les occupants, échange de données avec le contexte externe au bâtiment, et puis progressivement on va aller vers des techniques un peu d'autopilotage du bâtiment qui va s'auto-adapter dynamiquement, de façon très réactive, au contexte d'usage. Là, on vient de le vivre avec la période de confinement. Beaucoup moins de personnes dans les bâtiments, beaucoup plus de flexibilité. Une tendance dans le télétravail à avoir des attitudes individuelles de choix de quand je vais revenir au travail, sur quel endroit, sur quelle plaque. Donc il faut qu'on accompagne ces choix. Ça part de l'arrivée au bâtiment, le choix d'une place de parking, le choix d'un espace de travail. Sans technologie, ça serait très compliqué de le faire. Donc le smart va en fait amener des technologies pour aider à cette régulation de l'occupation. Et du coup, le bâtiment va être mieux maîtrisé en termes énergétiques et mieux adapté à la vie de ses différents occupants.
Quand on vous écoute, on voit bien que ça rejoint complètement ce que vient de nous dire Romuald précédemment. Du coup, ma question suivante, et on va peut-être la poser à vous, Frédéric Maillet, smart et green ne sont pas incompatibles?
Non, du tout. Et on voit bien, comme le disait Romu et Frédéric là à l'instant, il y a un fort lien entre les deux. Ce que j'ai bien aimé là dans les deux discours, on va parler de bien-être. Dans les deux, on parle de bien-être et comment ces deux, le green et le smart building, vont apporter du bien-être aux usagers dans un bâtiment, quel qu'il soit. Donc ça, c'est intéressant. Après, ils ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires. Frédéric l'a dit, le smart, derrière, c'est un outil. Et donc il faut réfléchir sur le pourquoi. Ça reste un outil, des solutions qui sont dans notre quotidien, que ce soit au bureau ou à la maison, qui vont permettre effectivement de parler d'efficacité, de mieux maîtriser la régulation, peut-être même réguler nos comportements, des fois, qui ne sont pas très green par nature. Mais du coup, il y a un fort lien. Ils sont complémentaires, mais ils doivent aussi adresser indépendamment, puisqu'on peut faire du green. À la base, déjà, il faut réfléchir pourquoi, comment on fait du green sans le smart building. Donc, il va falloir parler de sobriété aussi. Frédéric en parlait, c'est intéressant. C'est aussi une première brique. Le smart n'est pas la réponse à tout. Ça va être un outil. Comment utiliser cet outil pour tendre vers cette sobriété, cette efficacité qui nous manque parfois.
Alors, Romuald, comment on fait du green sans tech?
Ça s'appelle le low-tech. Le low-tech, c'est quoi? C'est une consommation responsable de l'énergie. Si je donne un exemple sur une salle de réunion, par exemple, c'est comment calculer l'efficacité de l'éclairement de la salle, comment planifier son traitement d'air. C'est tous les rapports que l'on va avoir entre une salle qui va être occupée et une salle qui ne va pas l'être. Et effectivement, la planification de cette salle va nous permettre d'être le plus... le plus près en fait d'une consommation basse. Mais c'est aussi, on parlait avant beaucoup d'éclairement, de lumen, etc., etc. Aujourd'hui, on va plutôt parler de qualité d'éclairement entre une qualité en apport solaire et une qualité de complément d'apport de lumière artificielle. Et c'est là où on va être beaucoup plus efficient. C'est-à-dire que si on arrive à calculer bien comme il faut les proportions d'une pièce, si on arrive à avoir effectivement un éclairage naturel qui soit le plus efficace possible, et si on a juste à éclairer cette pièce à partir des captations que l'on va avoir pour qu'on puisse avoir le confort le plus efficace et le plus efficient de cette salle, c'est extraordinaire. Et c'est là où on devient vraiment économe. L'économie, c'est pas vivre dans une grotte, c'est au contraire vivre dans un bâtiment qui est plein d'espoir et plein de renouveau.
C'est trouver les leviers finalement pour optimiser l'utilisation et la gestion du bâtiment.
Exactement, exactement. Mais de façon intelligente. Et non pas, jusqu'à présent, on passait en puissance, c'est-à-dire on disait, voilà, on veut une régulation, on veut 25 degrés, tac, faites-moi un bâtiment qui fasse 25 degrés. Non, là, aujourd'hui, on dit on veut un bâtiment sur lequel on sait qu'à telle période de la saison, on aura une telle température. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un confort ressenti d'autant qu'il y ait un delta de température entre ce qu'on vit à l'extérieur, ce qu'on vit à l'intérieur et le taux d'hygrométrie que l'on va avoir. Et ça, c'est une approche qui est complètement différente, qui nécessite de l'intelligence et non pas de la puissance.
Ça veut dire qu'on ne doit plus faire finalement l'opposition entre le confort des usagers et la dimension un peu éco-responsable du bâtiment ?
Absolument pas.
Au contraire, elles vont s'auto-alimenter. Donc de la connaissance précise des usages des occupants, de leur mode de vie, on parlait par exemple d'une salle de réunion, donc de la prévision de sa planification et surtout la mesure de son usage effectif, parce qu'on peut planifier une salle de réunion, on le fait tous hein, dans nos comportements, j'ai besoin d'une salle, je sais que je vais avoir des difficultés à la voir, donc je vais la réserver de 14h à 16h, peut-être même systématiquement chaque semaine, alors que finalement je vais peut-être l'utiliser qu'une heure de temps en temps. Et donc là où le smart va intervenir, où la technologie va intervenir, c'est que même si l'utilisateur réserve des longues plages, on va pouvoir capter si la salle finalement s'est libérée, déterminer une occupation, considérer que la salle peut être réutilisée par quelqu'un d'autre ou agir sur la régulation pour avoir un meilleur bilan énergétique d'ensemble. Donc les technologies apportent en fait une vision plus fine des usages en comptant, en analysant les flux, en analysant les saisonnalités et aussi en remettant le bâtiment dans son contexte. Donc ce sont des technologies aussi qui vont s'alimenter de données externes comme la météo, comme l'ensoleillement, comme les prévisions météo. Et donc, derrière, on va ajuster le bâtiment à ces différents contextes d'usage. Donc, on est vraiment... Peut-être le changement de la période qui s'ouvre aujourd'hui, c'est que technologiquement, on est capable de suivre les choses en finesse et de façon beaucoup plus constante. Au lieu de le faire au moment de l'établissement du projet, de la livraison du bâtiment avec des pré-réglages qui ne sont pas si dynamiques que ça dans l'usage, là, on rentre dans une ère vraiment d'autopilotage potentiel du bâtiment.
Frédéric Maillet, vous voulez réagir ?
Non, il y a plein de choses à dire. C'est vrai qu'on a parlé de confort, oui. C'est la base. D'ailleurs, un des piliers du confort, c'est déjà le confort physique. Donc c'est vrai qu'il faut déjà penser à est-ce que je suis bien en termes de thermique, la lumière, etc. Ça, c'est la base. Après, on va parler de fonctionnalité et de confort psychologique. Après, ce qui est intéressant aussi dans le smart, et c'est comme ça qu'on essaie de l'aborder, c'est vraiment de l'intégrer aussi dans tous nos métiers, et d'où la présence de toutes ces spécialités chez Cardam. C'est pas d'en faire une surcouche, et ça va être important. C'est pas un énième sujet à rajouter dans un projet. C'est vraiment, il faut l'intégrer dans tous nos métiers, il faut l'infuser, que ce soit dans les métiers de programmation, dans les métiers d'architecture, d'aménagement intérieur. Et ça va être une des clés de réussite du projet.
Encore une fois, l'idée, c'est qu'il soit optimisé et optimal pour fonctionner au mieux.
Et tout ça, on parle d'efficacité, d'efficience, et pour ça, il faut de la rigueur. Et pour le coup, peut-être un avantage de faire rentrer les entreprises de services numériques, l'IT, dans le monde immobilier, c'est d'y mettre une rigueur qu'il y a dans la gestion de la donnée, etc., qui historiquement n'est pas dans l'ADN du monde de la construction, si je peux me permettre.
Quand je vous écoute, je me dis que le smart est quand même une super solution pour répondre aux enjeux du décret tertiaire, notamment, qui nous demande de réduire drastiquement les consommations des bâtiments tertiaires à 2050. Et 2050, c'est à peu près demain.
Oui, il apporte un certain nombre de cas d'usage pour rendre la démarche maîtrisable, déjà en termes de traçabilité. Si on veut avoir une trajectoire, il faut, à partir d'une année de référence, mais il faut surtout suivre un certain nombre d'objectifs. Et bah, pour ça, il faut avoir de l'information. Donc, je dirais, une des principales contributions du smart, au bout du bout, c'est d'avoir des données, d'avoir une historisation de ce qui s'est passé, et d'arriver à définir une trajectoire. Ensuite, il apporte aussi par son fonctionnement, les services notamment qu'il ouvre aux collaborateurs, une optimisation. Donc il va être contributeur. Mais la technologie, encore une fois, je dirais, c'est un maillon de la chaîne. Mais le fond du sujet, c'est la construction, c'est l'organisation de la vie des occupants, c'est la compréhension de ces flux et de la façon dont les occupants vivent le building. Et le smart va accompagner le processus. Mais le smart tout seul, en fait, à part prendre des données et les rapprocher, bon, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va être le cœur du sujet. C'est la construction et la façon dont on va gérer ces aménagements, aider l'utilisateur à vivre de façon la plus sobre possible dans le bâtiment. Donc il y a plein de petits points sur lesquels le smart va contribuer. Ça peut être des points de détail, par exemple les restaurants d'entreprise, s'ils ont une meilleure compréhension de qui vient dans le bâtiment, notamment si on rebondit sur ce qu'on disait sur le télétravail, ils vont être en meilleure capacité de préparer leur plat, de savoir ce qu'ils vont commander, quels sont leurs stocks. Donc les échanges d'informations, en fait, vont permettre aussi bien d'être vertueux sur l'énergie que sur le restaurant d'entreprise, que sur les aménagements, que sur les parkings. Ça couvre tout un ensemble de domaines. Mais ces données, sans derrière le patron du restaurant qui les prend en charge et qui analyse l'effet pour lui, ça reste que des données. Donc c'est pour ça que le smart n'est qu'un contributeur.
Bon, c'est bien, on voit l'importance de l'humain. Oui. Romuald.
Et puis, si je rebondis sur le restaurant, avec le green building, l'avantage, c'est qu'il sera en circuit court pour récupérer tous les fruits et les légumes dont il a besoin. Et c'est quand même un avantage. Et le smart aidera effectivement à alimenter cette végétation en eau de façon économe aussi. C'est tous les circuits courts. Et ça veut dire que le bâtiment, il interagit pour ses occupants, mais aussi pour la cité. Et là, on va se retrouver effectivement avec un bâtiment qui va être économe en énergie, mais cette énergie, elle est économe aussi pour la cité.
Ça veut dire qu'il faut penser le bâtiment maintenant à l'échelle du quartier ou de la ville, et plus seulement à sa propre échelle ?
À l'échelle d'un contexte et d'un lieu, tout à fait.
Eric ?
Oui. Oui, bah c'est le cas sur beaucoup de cas d'usage. Typiquement, aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation du bâtiment, de ces salles de réunion, de ces espaces, en fait, on ne l'arrête pas juste à la dimension du bâtiment. Donc, on analyse le besoin d'utilisateur avant. Donc, avant, il peut être chez lui, il va se rendre sur le bâtiment, et ce qu'il va faire aussi après. Et cette démarche fait qu'en fait, on est beaucoup plus ouvert sur le contexte du bâtiment avec la ville. Donc, typiquement, je veux venir aujourd'hui, j'ai besoin d'une place de parking, il n'y a pas assez de place de parking, le smart va proposer une modalité alternative. Donc dire, bah, peut-être que tu pourrais venir en covoiturage avec un collègue qui est sur le même trajet. Peut-être que tu pourrais prendre les transports en commun. Donc beaucoup de nos clients, en fait, quand on parle de service, nous proposent de réfléchir à des cas d'usage qui sont au-delà du bâtiment. Et c'est là où la notion de smart est intéressante, puisque les services de la ville, bah, sont aussi de plus en plus digitalisés. Les transports ont leur système d'aide à la navigation, d'aide à la réservation. Donc il y a beaucoup de services qui se digitalisent. Et du coup, on peut faire des passerelles entre ces deux mondes. Donc le bâtiment, en communiquant, expose ses besoins à des services qui eux-mêmes cherchent des clients, et les passerelles se font très vite. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de définir des gros projets, des grosses démarches d'intégration. Ça se fait naturellement parce que le bâtiment utilise les mêmes clés de langage, les mêmes clés d'exposition des services que les services marchands de la cité. Et donc les opérations se font cas d'usage par cas d'usage très vite. C'est ça un peu l'objectif du smart, d'être très rapide et très agile.
Ça y est, le mot a été prononcé, usage. Frédéric Maillet, c'est le cœur finalement de tout ça, les nouveaux usages?
Oui, c'est vraiment le cœur de la réflexion, l'usage, le pourquoi plutôt que le comment. De quel besoin on va avoir. Alors c'est effectivement, dans l'immobilier tertiaire aujourd'hui, c'est une grande réflexion qui a été accentuée par la crise du Covid. Aujourd'hui, on parle, c'est des sujets au quotidien, on parle d'hybridation du travail, comment je vais travailler à la fois chez moi, à la fois au bureau, à la fois dans un mixte. Aujourd'hui, on se retrouve au quotidien, on vit des réunions où la moitié est en physique, l'autre est chez soi. Donc, comment on fait pour pouvoir bien travailler ensemble dans ces conditions? Donc voilà, la réflexion sur l'usage est vraiment primordiale.
Il y a un point également qu'on n'a pas encore abordé, c'est le point économique. Romuald, est-ce qu'un bâtiment green est un bâtiment liquide?
Liquide, vous entendez quoi par liquide?
Qui demande, dont le prix remonte à la vente, sur lequel il faut investir?
Non. Je pense qu'il faut regarder un bâtiment dans le cadre de sa construction et de la vie qu'il va avoir ensuite et sa maintenance. Et il me semble qu'aujourd'hui, on parlait justement de low-tech, et un bâtiment qui est green n'est pas forcément d'abord un bâtiment qui est beaucoup plus ou plus coûteux à construire qu'un bâtiment d'aujourd'hui, ou d'hier plutôt, on va dire. Mais en plus de ça, il me semble que dans la maintenance qu'il aura par la suite, c'est un bâtiment qui sera beaucoup, beaucoup plus économique.
Est-ce que c'est un bâtiment qui va prendre de la valeur?
C'est un bâtiment qui va prendre de la valeur parce qu'aujourd'hui, on est sur une dérive climatique. Il faut savoir que vous parliez de l'outre-mer. Moi, je travaille effectivement sur l'outre-mer. Et on a des sujets où on a du mal à gérer les bâtiments à 2040. Et 2040, c'est demain. Donc, oui, ces bâtiments-là auront toute la valeur du contexte sanitaire. Oui.
Frédéric Pittard sur ce point, et après, on donnera la parole à Frédéric Maillet.
Je pense que la partie donc plus smart qu'accompagne ce mouvement, c'est aussi une façon de valoriser son patrimoine immobilier. C'est-à-dire, pour un propriétaire, le fait d'avoir un bâtiment qui va dans cette dimension plus digitale, c'est une valeur d'attractivité, une valeur pour développer les cas d'usage dont on parlait, une valeur pour aussi discuter, échanger avec la cité. Donc ça devient presque un must-have d'avoir ces technologies pour pouvoir justement être agile, être flexible et pouvoir s'adapter aux différents contextes qui vont venir. Donc c'est un premier sujet qui est probablement cette valorisation du patrimoine. Ensuite, effectivement, ces technologies permettent aussi d'être plus économes en termes de maintenance. Donc on se retrouve notamment avec des contextes de pénurie sur certains matériaux à terme, le cuivre par exemple, qui est quand même un des supports de beaucoup de systèmes techniques, informatiques. Donc on va vers d'autres façons de travailler, d'autres façons de concevoir les réseaux d'entreprise, d'autres façons de concevoir les salles dans lesquelles on met des équipements pour les rendre moins énergivores, moins besoin de climatisation, mieux répartir les technologies. Donc tout ça contribue. Il y a une démarche vraiment volontaire aujourd'hui de se dire comment on fait un bâtiment technologiquement agile, technologiquement performant et en étant beaucoup plus sobre qu'auparavant en termes d'usage des technologies et de répercussions sur des data centers, sur de la clim, sur des réseaux. Donc c'est aussi une dimension importante dans cette maintenance.
Frédéric Maillet, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, en parlant de green et du coup et de valeur, c'est vrai qu'il y a aussi toute la notion d'économie circulaire qui émerge aujourd'hui dans la réflexion. C'est effectivement, c'est quelle sera la valeur de mon bâtiment 50 ans après, au moment où je vais devoir le déconstruire. Donc tout ça, il y a vraiment une réflexion aujourd'hui sur les matériaux qu'on va mettre en œuvre. Les matériaux qui, 50 ans plus tard, auront possiblement une valeur. Donc ça veut dire aussi la traçabilité. Et là, le smart, le BIM derrière, des données essentielles pour pouvoir suivre tous ces matériaux. Et on est beaucoup moins avancé en France par rapport à certains pays. Je pense à l'Allemagne, par exemple, sur ces sujets-là d'économie circulaire, où il y a un lien plus fort, je pense, entre l'industrie et le monde du bâtiment. Et aujourd'hui, toute la réflexion qui est en cours en Allemagne, par exemple, induit pour les investisseurs à intégrer dans leur business plan, dans leur investissement, une ligne de revalorisation de mon bâtiment 50 ans après. Donc c'est des choses qui pourront même comptablement, financièrement, se valoriser dans un investissement.
Ça, c'est tout nouveau.
C'est des choses, oui, c'est tout nouveau. C'est des réflexions qu'on voit qui émergent en Europe, par beaucoup l'Europe du Nord. Mais c'est des choses sur lesquelles on avance petit à petit. Et le BIM doit permettre d'être un accélérateur sur ces sujets-là.
L'économie circulaire, le BIM, tout ça, c'est des sujets pour demain. Et justement, et on va conclure là-dessus, comment est-ce que vous voyez les choses pour les années et les décennies à venir, Romuald?
Ah, je vois des bâtiments très intelligents, dans le sens où effectivement, on voit que, quelle que soit l'industrie, on est passé à une industrie de puissance, à une industrie d'intelligence. Et la construction tend vers cette même démarche, même si on est plus des gens qui pétrissent la pâte, puisqu'en fin de compte, on n'est pas dans de l'industrie. Mais on est quand même dans l'obligation d'être dans cette dynamique-là.
Avec Pitard.
D'un point de vue technologique, on est. Alors certains utilisent des termes qui sont, je pense, assez parlants, comme des bâtiments auto-cicatrisants qui vont analyser leur peine, leurs problèmes et déclencher tout de suite des processus de maintenance ou autopilote du bâtiment, c'est-à-dire que...
On est déjà un petit peu, ça, c'est de la maintenance prédictive.
Oui, mais on va être... De faire le fait qu'on va traiter les données de façon beaucoup plus fine, la réactivité va être beaucoup plus rapide. Et sur l'autopilotage, on peut se projeter un peu comme dans le domaine aéronautique. Quand vous prenez un avion aujourd'hui, bon, le pilote est certes indispensable, il faut bien qu'il y en ait dans la cabine, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y a tellement de données intégrées sur un trajet que même avec les pilotes les plus intelligents, finalement, les équipements prennent des décisions qui sont certainement plus économes en termes de consommation. Et pour le bâtiment, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir un autopilotage qui va s'appuyer sur les données, sur de la prévisibilité, sur les termes qu'on voit dans tous les domaines, hein, sur du machine learning, sur la compréhension des données, la projection sur ce qui va arriver. Et ça va vraiment apporter beaucoup plus de flexibilité et probablement de sobriété énergétique.
Frédéric Maillet, la conclusion est pour vous.
Alors, moi, je vois beaucoup de débats passionnants dans les années à venir. Parce que il y a l'urgence climatique, cette prise de conscience, donc c'est un fait, donc il va falloir agir et réagir vite. Il y a aussi des attentes des citoyens, nos collaborateurs au sein de l'entreprise, plus ou moins jeunes. Et du coup, je vois beaucoup de débats passionnants, pas toujours simples, hein, parce que voilà, il y a parfois des sujets divergents. Donc comment faire converger toutes ces problématiques-là? Et moi, je vois beaucoup d'espoir, de sujets passionnants pour les projets immobiliers qui sont de plus en plus complexes. Donc aussi, comment réussir à simplifier toutes ces problématiques-là pour faire des choses simples aussi et efficaces. Donc,
et il faudra venir en débattre de tous ces sujets sur Radio Immo, évidemment. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications, tous ces éclairages. Hein, une première approche du green et du smart, on peut désormais l'affirmer. Ils se conjuguent en tout cas à merveille et ils sont l'avenir de nos bâtiments. Avant de vous quitter, on va refaire un petit tour de table quand même pour vous remercier aujourd'hui. Frédéric Pitard, directeur technique Cardam Digital, merci. Frédéric Maillet, directeur du pôle conseil de Cardam, merci à vous.
Merci, Johanna.
Et puis merci à vous, Romuald Dobrinski, architecte associé responsable des pôles santé, éducation, justice et outre-mer pour Cardam.
Merci, Johanna.
Un grand plaisir de vous recevoir tous les trois. Cette émission est désormais disponible en podcast. Vous pouvez la réécouter sur notre site radio.imo et sur tous les agrégateurs de podcasts où vous pouvez également retrouver toutes les émissions que nous avons coproduites avec Cardam. Alors n'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur Radio Imo.
Émission spéciale. Faire du green implique-t-il de faire du smart building? En coproduction avec Cardam. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.